Alors avant de commencer ce matin, j'aurais quand même prié. Oui Seigneur, ce matin, nous avons proclamé ton nom. Nous avons proclamé, Seigneur Jésus, que tu es le Dieu vivant, que tu es celui qui a tout réalisé pour nous. Tu es celui qui nous a rachetés de la mort. Et Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Oui, mon Dieu, nous voulons garder les yeux fixés sur celui qui a tout accompli pour nous. Et Seigneur mon Dieu, je te demande ce matin que tu ouvres nos cœurs afin de considérer ce que tu veux pour nos vies, non pas ce que nous voulons, mais ce que tu veux et ce que tu veux faire grandir en nous, Seigneur. Parce que nous savons, mon Dieu, que ce qui est dans ton Fils Jésus, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et je te prie, Seigneur Jésus, que tu fasses grandir en nous ce que tu veux de meilleur pour nous. Amen. En Actes chapitre 2, verset 42, il nous est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce passage se situe à un moment particulier. Nous sommes à Jérusalem, juste après la Pentecôte, et le Saint-Esprit est venu remplir avec puissance et force ceux qui croient en Christ. Et l'apôtre Pierre prêche et proclame que Christ est mort et ressuscité, qu'il est monté au ciel et qu'il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu sur ses disciples, dit Pierre, comme vous l'avez vu et entendu. Et ceux qui écoutaient les paroles de Pierre et qui acceptèrent ces paroles furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est la naissance de l'Église. Et une des premières choses qui ressort de cette naissance, c'est ce à quoi s'attache l'Église. Elle persévère dans l'enseignement des apôtres. Elle persévère dans la fraction du pain et dans les prières. Elle persévère dans la communion fraternelle. Alors toute la vie de l'Église n'est pas résumée dans ce verset-là, à ce moment-là, mais il nous montre en tout cas ce à quoi s'attache l'Église dès le début, ce qui l'anime et ce qui la caractérise. Nous continuons, comme il a été dit, notre série de prédications sur ces missions de l'Église qui représentent des piliers pour l'Église. Rendre un culte à Dieu, enseigner les disciples, annoncer la parole de Dieu et l'amour fraternel. Alors nous l'avons déjà dit, nous croyons qu'il n'y a pas forcément d'ordre dans ces missions, mais qu'elles sont toutes des piliers de l'Église. Et elles doivent être, je crois, et nous croyons, mises à un même niveau pour pas que notre vie d'Église soit déstabilisée. L'amour fraternel, quel programme ! Alors je dois vous avouer qu'en préparant ce thème ce matin, j'étais bien ennuyé de devoir parler de l'amour fraternel. Parce que si vous considérez l'amour fraternel dans la parole, il est extrêmement vaste. Et on est beaucoup encouragé à l'amour. Et ce n'est pas évident de devoir parler d'un thème aussi vaste que l'amour fraternel. Et je crois que ça serait réducteur de vouloir le réduire dans une seule prédication. L'amour fraternel, ce n'est pas simplement un amour émotif, comme on peut le connaître. C'est un amour les uns pour les autres, dans une sollicitude profonde. En Romains 12, verset 10, Paul dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et dans tous les évangiles et dans les lettres, l'amour n'est pas bien loin. L'amour fraternel prend bien des formes dans l'Église. C'est prendre soin les uns des autres en se soutenant mutuellement. C'est s'entraider quand quelqu'un est dans le besoin par des choses très concrètes. C'est partager des moments ensemble pour renforcer nos liens affectifs. Mais l'amour fraternel se vit aussi dans des petites réunions, comme les groupes de maison, les groupes d'études, les groupes de prière. L'amour fraternel se vit aussi dans le culte que l'on rend à Dieu. Sans amour fraternel, il est difficile de rendre un culte à Dieu qui lui soit agréable. L'amour fraternel se vit aussi dans le service que nous donnons mutuellement les uns les autres, en vue de notre croissance, de notre édification. Sans amour fraternel, nos services se retrouvent affaiblis. L'amour fraternel s'exprime et doit s'exprimer aussi dans nos actions, en dehors de l'Église. Vous le voyez et vous le savez, l'amour fraternel s'exprime de bien des manières et dans bien des aspects de notre vie. Et je ne vais pas aujourd'hui décrire toutes les formes qu'il peut prendre. Vous les connaissez certainement. Je dirais, vous savez ce que vous avez à faire. Mais je vais m'attacher à ce qui contribue plutôt à la croissance de cet amour fraternel, tellement important pour l'Église. D'ailleurs, il nous est dit dans la parole d'abonder toujours plus dans l'amour. D'abonder toujours plus dans l'amour. Et le passage que je vous invite à lire ce matin nous donne, je crois, les sentiments que nous devons revêtir et même les efforts que nous devons mettre en œuvre, chacun pour sa part, pour abonder toujours plus, si l'on peut, dans l'amour les uns pour les autres. Je vous invite à lire donc un passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Au chapitre 3, et nous lirons du verset 12 à 15. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 12 à 15. Paul écrit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. » Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Alors ce passage se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Paul, comme il se nomme lui-même, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul s'adresse aux frères de l'église de Colosse et il les salue, comme il dit tout au début de cette lettre, il salue ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec le Christ. Paul écrit donc cette lettre aux frères de cette église, église de Colosse, Colosse, ville d'Asie mineure dans la Turquie actuelle. Et cette lettre, c'est l'occasion pour Paul d'encourager, d'exhorter les frères de l'Église à ne pas se laisser écarter de l'évangile de Jésus-Christ, comme il le dit au chapitre 1. Cette ville de Colosse, un peu comme les grandes villes de l'époque, est dans un système de pensée fortement influencé par l'inspiration philosophique grecque. Et le danger pour beaucoup à cette époque, nous on a d'autres dangers qui nous guettent, mais le danger, c'est que Christ ne soit pas mis à la première place. Et Paul va donc commencer par rappeler que nous avons tout pleinement en Christ, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes par son sacrifice. Et si nous avons donc reçu le Christ, nous devons rester et nous comporter comme des gens unis à lui, dira Paul. C'est donc dans cette union avec le Christ que se trouve la vraie vie. Il n'y en a pas d'autre. Et il termine cette démonstration en disant, au chapitre 2, verset 19, « C'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. De cela, de cette réalité, Paul nous dit que la vie chrétienne devient une vie de liberté en Christ. Que la vie chrétienne est caractérisée donc par l'amour et la paix les uns pour les autres. Que la vie chrétienne véritable, marquera nécessairement de son empreinte notre vie quotidienne et nos relations en dehors de l'Église. Après cela, Paul, dans le chapitre 3, où se situe notre passage, enseigne finalement sur les conséquences pratiques que tire l'Église de son attachement au Seigneur Jésus-Christ. Et précisément, notre passage vient à la suite d'une partie où Paul encourage avec force les frères à se débarrasser de leur ancienne nature et à vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ qu'ils ont revêtue. Il dira au chapitre 3, verset 5, ces paroles fortes. « Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Toutes ces choses, d'ailleurs, si vous les considérez, sont des choses qui sont tournées vers nous-mêmes. L'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder, l'idolâtrie, ce sont des choses qui sont tournées pour nous-mêmes, pour nos propres désirs, pour nos propres envies. Paul dira, dès à présent, débarrassez-vous de tout cela. Débarrassez-vous de tout cela. Puisque Dieu vous a racheté, vous êtes appelé à revêtir l'homme nouveau selon sa volonté. Et ce qui caractérise l'homme nouveau, ce n'est pas du tout cela. Dans cette nouvelle humanité, Paul dit encore, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence entre ceux qui sont d'origine juive, d'origine non-juif, qui sont étrangers, esclaves ou hommes libres. Mais il y a seulement Christ. Christ qui est tout et en tous. Christ qui est tout et en tous supprime toutes les barrières entre les croyants. Il porte ses disciples véritables, à revêtir tous les sentiments qui assurent la paix, l'amour et l'unité. Et je crois que avant de considérer l'amour fraternel, il faut bien se rappeler quel est notre socle. Quel est celui qui nous donne cet amour? Quel est celui qui a tout accompli? C'est Christ. Et c'est ce que proclame Paul pendant 3 chapitres. Christ, il est celui qui nous donne l'amour véritable. Il est celui qui nous invite à revêtir l'amour véritable qui vient de Dieu. Paul enseigne donc, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, alors revêtez. Revêtez-vous d'eux. Je dirais, revêtez-vous des caractères, du caractère de Christ. Je crois que dans ce passage que nous venons de lire et que je vous invite à regarder, Paul nous dresse, nous donne les sentiments à revêtir, les sentiments qui sont du caractère même de Christ. Et si on regarde ces sentiments qui nous appellent à revêtir, ce sont vraiment des sentiments qui nous tourne à vivre, qui nous encourage à vivre un amour les uns pour les autres, qui nous tourne les uns vers les autres et plus vers nous-mêmes. Si notre ancienne nature avait pour vocation à nous tourner uniquement vers nous-mêmes, l'homme nouveau, il a pour effet de nous tourner vers les autres. Que cette grâce que nous avons reçue, nous la retournions vers les autres pour porter du fruit. Paul commence donc cette partie de l'enseignement par dire « Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime. » Paul ancre son enseignement dans cette réalité. Vous appartenez à Dieu et il vous aime. Puisqu'il en est ainsi, revêtez-vous. Revêtez-vous de quoi? Des sentiments et pas n'importe quel sentiment. Si vous regardez le verset 12, Paul dit « Revêtez-vous ». C'est comme si vous preniez un manteau pour vous couvrir, un nouveau manteau, des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ces sentiments sont des sentiments que nous n'avons pas naturellement. Ce sont des sentiments qui nous viennent de Dieu, parce qu'il nous appelle à les revêtir selon Dieu. Et ces sentiments tiennent une place privilégiée dans la vie du croyant, dans le sens où ils sont, pour la plupart, partie prenante du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, je vous le rappelle, comme ils nous sont donnés en Galates 5, versets 22 et 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et ces sentiments reflètent l'action de l'esprit en nous. Et nous sommes invités à nous laisser conduire par l'esprit pour refléter ces sentiments. Ces fruits caractérisent, lorsque nous les portons, notre marche avec le Seigneur, notre marche selon l'esprit. Et je crois que nous sommes invités à revêtir ces sentiments parce qu'ils témoignent que non seulement nous vivons par l'esprit, mais que nous marchons selon l'esprit, c'est-à-dire en nouveauté de vie. Alors je crois ce matin que si nous sommes en Dieu, sachez que Dieu, par son esprit, va forcément vous revêtir de ses sentiments. Ce sont ceux qui habitent Dieu lui-même. Et il nous invite donc à revêtir ces mêmes sentiments qui sont en Dieu. Et je crois que ces sentiments ont une importance capitale. Et notamment une importance capitale dans notre amour fraternel. Dans le sens où, sans miséricorde, sans bonté, sans humilité, sans douceur, sans patience exercée, il n'est impossible d'avoir un amour fraternel véritable. Ces sentiments sont d'une importance capitale parce qu'ils ne sont pas tournés vers nous-mêmes, mais ils sont tournés pour que nous puissions les exercer pour le bien des autres et pour exprimer à quelque part la nature même de Dieu autour de nous. Ces sentiments, si nous les exerçons, ils participeront forcément à notre vivre ensemble, à notre communion fraternelle et à nous faire croître dans l'amour fraternel. Alors regardez un petit peu ces mots. Ces mots, souvent, on y passe rapidement. On sait ce que c'est l'humilité, on sait ce que c'est la bonté, on sait ce que c'est la douceur, la miséricorde, la patience. Mais regardez un petit peu ces mots. L'humilité, c'est quoi ? L'humilité, en grec, c'est une composition de deux mots, en fait. Un mot qui veut dire humble, de condition humble, et même la traduction exacte, c'est, pour le dire, quelqu'un qui ne s'élève pas loin de la terre, ras du sol. Et l'autre partie du mot, c'est un mot qui veut dire réfréner ou brider, retenir. Et il y a dans le mot humilité un sens profond de savoir s'effacer, se retenir, afin de mieux considérer l'autre. Il y a une notion puissante de savoir s'abaisser soi-même. Lorsqu'on prend trop de place, lorsqu'on se met trop en avant, on en vient à étouffer l'autre et à ne plus le voir. Parce qu'on prend toute la place. Et l'humilité, c'est l'inverse. C'est apprendre à savoir ne pas se regarder toujours pour que l'autre y prenne toute sa place, toute celle qu'on lui doit. En Philippiens 2, au verset 3 et 4, Luc tout à l'heure nous a lu ce passage, il nous est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Aussi ceux des autres. J'aime ici cette définition de l'humilité au sens de Paul. Savoir s'effacer pour considérer l'autre. Vous comprenez que l'humilité est quelque chose qu'on doit exercer pour vivre un amour fraternel véritable. La miséricorde, elle, c'est un mot intéressant aussi. Il est traduit souvent par le mot compassion ou même par le mot pitié. Et le mot miséricorde a deux sens. Il a en lui-même deux sens. Il a un sens passif et il a un sens actif. Il a un sens passif parce que c'est l'endroit où réside la miséricorde. En fait, être miséricordieux, c'est d'abord avoir un cœur de compassion. C'est-à-dire, c'est l'endroit où réside notre compassion. Avoir un cœur de compassion. La miséricorde, c'est aussi le désir, l'envie grandissante, la manifestation de vouloir aider quelqu'un. Donc il y a un sens actif dans la miséricorde. C'est à la fois avoir un cœur de compassion envers celui qui est dans le besoin, et c'est savoir aussi venir en aide à celui qui parmi nous est dans le besoin. Il y a donc un sens d'être, de reconnaître, et d'avoir un cœur de compassion donc, et un sens actif, c'est-à-dire que ce cœur, on le met en action pour venir en aide à quelqu'un. Et je dirais que la miséricorde ne peut pas s'arrêter au cœur. D'ailleurs, nous avons un témoignage puissant. Dieu a été miséricordieux envers nous et il a agi pour nous. La miséricorde ne peut pas s'arrêter au cœur et elle se traduit nécessairement en action, car elle nous porte vers l'objet de notre compassion pour venir en aide à celui que nous avons à cœur. Un cœur miséricordieux, c'est un cœur qui agit. C'est un cœur qui va vers l'autre. C'est un cœur disposé à aider. Et nous sommes encouragés à faire cela envers nos frères. La bonté ici, dans ce passage, ce n'est pas la bonté dans le sens qu'on pourrait associer à compassion, dans le sens d'exprimer de la bonté envers quelqu'un pour l'aider. Le mot bonté dans ce passage, c'est krestotes en grec, ça veut dire la bonté morale, l'intégrité, c'est-à-dire l'honnêteté envers les autres, l'honnêteté que l'on exprime envers quelqu'un, c'est-à-dire on se comporte bien pour le bien d'autrui. C'est rechercher au travers de la bonté de ne pas être faux vis-à-vis de quelqu'un, mais d'exprimer la réalité des choses envers son prochain. La douceur, elle, la douceur, c'est un mot intéressant parce que c'est un petit mot, je trouve, la douceur, ça ne fait pas de bruit, mais c'est essentiel. Et je crois que souvent, on manque de douceur. Tous, on manque de douceur dans nos comportements, dans notre manière d'agir, tous. La douceur, ça signifie la gentillesse, l'amabilité, dans notre manière de nous exprimer, dans notre gestuelle envers les autres. Et on ne peut pas dire qu'on soit dans un monde de douceur, que ce soit dans nos expressions ou dans nos actes. La douceur, s'il y a un peu de place, ok. Si la personne en face de moi est vraiment gentille, ouais. Mais la douceur, ce n'est pas un sentiment très important. Et pourtant, il est primordial. D'ailleurs, Paul dira à l'église de Philippe, au chapitre 4, verset 5, il dit ça à tous les frères de l'église, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. » La douceur est primordiale. La douceur est primordiale parce que il est difficile de témoigner de l'amour envers nos frères, envers ceux qui sont dans le besoin, sans avoir une attitude de douceur. Je terminerai ces quelques sentiments là qui nous sont donnés, cette liste, par le mot patience. Le mot patience est intéressant aussi parce que c'est patient, c'est être patient, mais ce n'est pas simplement ça. C'est la patience dans l'endurance et dans la persévérance. Et souvent, si vous lisez la lettre de Jacques, vous verrez que le mot patience, on l'a vu d'ailleurs dans nos études de Jacques, le mot patience, il est toujours associé à la persévérance. La patience produit la persévérance. Et dans la patience, il y a nécessairement cette notion de persévérance. Et donc, dans nos relations avec nos frères et sœurs, on a besoin non seulement d'être patient dans la persévérance. Être patient, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui s'exerce au quotidien. Apprendre à être patient. Et il y a des frères et des sœurs pour lesquels nous devons être plus patients. Et donc, c'est quelque chose dans lequel nous devons persévérer. Et je dois reconnaître que souvent on manque de patience, comme on manque de douceur. Tout aujourd'hui nous évite d'être patient. On court dans tous les sens. Donc on n'a pas envie d'être patient. Et cela se retrouve aussi dans nos relations les uns avec les autres. On manque de patience à tous les niveaux. Et ma femme peut témoigner que je manque souvent de patience. Pourtant, quand je regarde ce mot dans sa traduction, patience, c'est savoir faire preuve de persévérance dans mes relations avec les autres. Donc ça veut dire Ça m'apprend aussi à considérer le besoin de l'autre. Savoir faire preuve de persévérance dans la patience, ça veut dire se mettre à l'écoute de l'autre, savoir aller à son niveau, à sa vitesse, pour le considérer. C'est extrêmement important. Alors vous voyez ces sentiments que Paul nous dresse ici, qui sont en vue de cette nouvelle vie que nous avons. Vous comprenez bien qu'ils sont une composante essentielle pour pouvoir exercer un amour fraternel véritable. Je crois que nous pouvons demander à Dieu qu'il nous équipe par son esprit de ces sentiments afin que nous puissions vivre un amour fraternel vivant, réel. Il y a dans ces sentiments quelque chose qui exprime l'amour de Dieu pour nous. Et je crois que nous sommes invités à l'exprimer de la même manière. Ces sentiments, si vous les regardez un à un, ils nous invitent à nous ouvrir aux autres et non pas à nous fermer aux autres. À nous ouvrir. C'est un challenge merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous donner son amour, et Luc nous l'a rappelé ce matin de manière incroyable, sans aucune limite, sans aucune mesure, il nous a témoigné son amour. Est-ce que nous devons aussi nous refermer sur nous-mêmes ? Je crois que nous sommes appelés à témoigner ce même amour, aussi en nous ouvrant aux autres. Alors la première chose que je demande à Dieu ce matin pour nous tous, c'est qu'il nous fasse revêtir ses sentiments par son esprit. Je crois que nous avons tous besoin que Dieu nous remplisse de bonté, de miséricorde, d'humilité, de patience, de bienveillance, de patience les uns envers les autres. Et il y a aussi d'autres sentiments, ou plutôt d'autres aspects à considérer en vue de l'amour fraternel. Et je crois que cela relève de nos efforts aussi et de notre part. Parce qu'il y a aussi une part à faire par nous-mêmes. Et Paul y attache une importance particulière à cette part-là. Il nous dit au verset 13, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. » Se supporter et se pardonner. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'amour fraternel ? Mais si nous ne savons pas nous supporter, comment pourrons-nous témoigner de l'amour fraternel ? Si nous ne savons pas nous pardonner, comment allons-nous pouvoir exprimer l'amour fraternel ? Sans pouvoir se supporter, sans se supporter et sans se pardonner, il n'y a pas d'amour possible. Et Paul attache une importance particulière à ces deux aspects. Ces deux points touchent à l'unité profonde des frères dans la foi. Se supporter et se pardonner. Si nous ne supportons pas, si nous ne nous supportons pas, nous nous divisons. Si nous ne savons pas pardonner, nous restons dans la division. Vous comprenez bien que ces deux aspects sont essentiels pour croître dans l'amour fraternel. Il y a des choses que nous devons savoir exercer, auxquelles nous devons nous attacher, dans lesquelles nous devons faire des efforts afin que de l'autre côté, notre amour puisse s'en trouver grandi, qu'il puisse s'en trouver fortifié, qu'il puisse s'en trouver concret. Et je crois que le Seigneur nous appelle à enlever dans notre vie tout ce qui nous empêche de témoigner un amour véritable. Alors supportez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, c'est un mot qui des fois nous sonne mal à l'oreille. Parce que quand on entend le mot supportez-vous, ça veut dire, à quelque part, j'ai une obligation à apprendre à aimer quelqu'un ou à supporter quelqu'un qui n'est pas forcément comme moi et que j'ai même du mal à supporter. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il y a aussi un encouragement et je crois un appel à faire des efforts pour apprendre à aimer même ceux où, naturellement, on n'irait pas vers. Et vous savez que dans l'Église, le Seigneur, il a fait quelque chose de formidable, c'est qu'il a réuni des gens, des cultures, des gens qui viennent de cultures, de niveaux sociaux, de conditions sociales, tout à fait différents. Et il les a mis tous ensemble, parce qu'on a cru en lui. Eh bien, il nous invite à apprendre à nous porter les uns les autres. Et c'est vrai que dans le mot « supporter », il n'y a pas que cette notion d'obligation à s'aimer les uns les autres. Ce n'est pas une obligation. Mais il y a plutôt une notion de se porter les uns les autres. Le mot grec « anekomai », qui signifie supporter. Il signifie ici dans le texte tenir droit, porter, tenir ferme, soutenir, supporter quelqu'un avec constance, tenir fermement quelqu'un. Il n'y a pas qu'une notion d'apprendre par nos efforts, il y a une constance dans cet apprentissage. Il y a tenir fermement à quelqu'un, apprendre à le soutenir, apprendre à le porter. Se supporter les uns les autres, c'est un apprentissage à aller plus loin, mutuellement, avec constance. Il y a encore ici cette notion d'effort et de persévérance, comme pour la patience d'ailleurs. Supportez-vous, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc c'est quelque chose qui nous porte les uns vers les autres. Mais nous devons non seulement apprendre à nous supporter, mais s'il y a un motif de désaccord, nous dit Paul, nous sommes appelés à se pardonner et à se pardonner mutuellement, réciproquement. Et ce mot réciproquement, il est extrêmement important, ici notamment dans la notion de nos relations les uns avec les autres. Demander pardon et recevoir un pardon et accorder son pardon, c'est extrêmement important. Mais se pardonner mutuellement, c'est à la fois savoir demander pardon et en retour savoir pardonner. En vue d'un but à atteindre, c'est un accord. Un accord pour une réconciliation. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté comme ça dans l'Église. On ne peut pas le mettre de côté parce que Jésus-Christ nous appelle à un accord mutuel. Même difficile, il nous appelle à un accord. Trouver un accord. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus nous dit au chapitre 5 de Matthieu, versets 24 et 25, quand il parle du pardon avec puissance et force, il dit « va d'abord te réconcilier avec ton frère ». Va lui demander pardon et va te réconcilier avec lui. Il y a une notion importante dans la recherche de la réconciliation. Il dit encore un peu plus loin « accorde-toi pendant qu'il est temps. Accorde-toi. Trouve un accord aussi. Recherche l'accord. » Le pardon, c'est pas simplement savoir demander pardon ou savoir accorder son pardon. C'est considérer au-delà du pardon, c'est-à-dire rechercher le but à atteindre, c'est se trouver la réconciliation derrière. Et pour appuyer cette importance du pardon, Paul n'y va pas par quatre chemins, il prend l'exemple même de Christ. Et je crois que pour considérer le pardon, nous avons besoin de considérer d'abord le pardon de Christ. Et Paul dit « Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. » Nous avons en Christ le parfait exemple du pardon, le pardon suprême accordé aux hommes. Nous ne méritions rien, et pourtant Christ nous a pardonnés. C'est le pardon parfait par lequel nous sommes sauvés. Eh bien, Paul nous invite pas moins que de revêtir le même pardon. Alors, la deuxième chose que je demande à Dieu ce matin, c'est qu'il nous rende capables. Parce que je crois que nous avons besoin que Dieu nous rende capables de nous supporter, de nous porter les uns les autres, et qu'il nous rende capables de pardonner et de savoir nous pardonner. Apprendre à nous porter et apprendre à nous pardonner, c'est ne pas laisser de lien dans notre vie chrétienne et dans l'Église qui empêche une communion fraternelle véritable et qui empêcherait l'expression d'un amour fraternel véritable. Je crois que si nous laissons dans nos vies des fractures entre frères, si nous laissons dans nos vies des obstacles et dans notre vie d'Église, notre amour fraternel s'en trouvera forcément touché. Alors je ne dis pas que c'est simple. Ce n'est pas simple. Parce que la parole de Dieu insiste sur ce fait-là, c'est que ce n'est pas simple. Mais nous avons besoin de Dieu pour qu'il nous rende capables de le réaliser. Paul dit ensuite au verset 14, « Par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Paul isole l'amour dans ce verset. Dans ce verset, il dit « L'amour, il est le lien par excellence. » Ou dans d'autres traductions, on lit « Le lien suprême, le lien de la perfection. » L'amour que nous portons les uns pour les autres est ce qui anime puissamment l'Église. C'est ce qui donne l'unité aux frères dans la foi. Paul dira à l'Église de Thessalonique, d'ailleurs, si vous lisez les lettres de Paul, vous verrez qu'il y a toujours toujours un passage des versets qui touche à cette importance de l'amour fraternel et de l'amour les uns pour les autres. C'est un point sur lequel il insiste dans chacune de ses lettres. Et là, à l'église de Thessalonique, il dit au chapitre 4, « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais, dit Paul, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. À abonder toujours plus dans cet amour. » Paul dit deux choses ici. Il dit d'abord, premièrement, pour moi, abonder toujours plus dans cet amour. Et quand je lis ces paroles de Paul, c'est vrai, personne ne peut dire qu'il aime suffisamment. Personne ne peut dire à cette église, ou mon frère, ou ma sœur, ou cette personne qui est dans le besoin, je l'aime suffisamment. Nous avons besoin d'abonder toujours plus en amour. Nous avons besoin d'être enracinés et d'être fondés dans l'amour afin d'abonder toujours plus en amour. Enracinés et fondés dans l'amour, ça veut dire enracinés et fondés en Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul le dit en Éphésiens 3. Être enraciné et fondé dans l'amour, c'est être enraciné et fondé dans l'amour de Christ. Et nous avons besoin d'être enracinés en lui pour pouvoir abonder en amour. La deuxième chose que Paul dit ici, c'est que cet amour, vous avez appris vous-même de Dieu. Vous l'avez appris vous-même de Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai que cet amour, déjà, nous l'avons appris nous-mêmes de Dieu. Chaque personne qui a reçu le Christ a reçu dans sa vie le témoignage de l'amour de Dieu pour lui personnellement. Donc déjà, je pourrais dire, cet amour, il est concret dans le sens où Christ me l'a témoigné déjà pour moi. Et cet amour, nous l'avons appris de Dieu aussi parce que Christ nous l'a témoigné lui-même. Christ l'a témoigné, si vous vous rappelez ces paroles qui se trouvent en Jean 13, verset 34, au moment où Christ va être livré à la croix, il dit à ses disciples, comme il pourrait nous dire aujourd'hui, il dit à ses disciples, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Christ dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pourtant, ce commandement n'est pas nouveau. Si vous lisez la loi, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas quelque chose de nouveau que d'aimer quelqu'un. Mais il est nouveau ici dans le sens où Christ dit, comme je vous ai aimé. Ce commandement est nouveau dans le sens où il nous invite à aimer comme Christ nous a aimés. Christ va être livré à la croix et il va témoigner, on pourrait dire, du comble de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et en ce sens, ce commandement est nouveau. Il est nouveau parce qu'il nous témoigne de l'amour de Dieu pour l'humanité d'une manière dont le monde n'a pas connu. Christ va donner sa vie pour nous. Il va donner sa vie pour nous. Il y a des gens qui prennent la vie d'autres. Christ, lui, il a donné sa vie pour nous. Nous avons ici le meilleur exemple que nous pouvons opposer à toute l'humanité entière. Un exemple d'amour immense. Il a donné sa vie pour que nous, nous vivions. Je crois que nous devons garder ça à l'esprit. Dans chacune de nos actions, dans chacun de nos comportements, est-ce que nous faisons vivre cette réalité de l'amour de Christ ? Est-ce que lorsque je vis l'Église, est-ce que lorsque je suis dans ma maison, dans mon travail, est-ce que dans mes relations avec mes frères et sœurs, je donne du concret à cette réalité que Christ a accomplie dans ma vie ? Christ a donné sa vie pour nous. Et Christ dira un peu plus loin, d'ailleurs, dans Jean, il dira « Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis ». Pas de prendre la vie de ses amis, mais de donner sa vie pour ses amis. Non seulement Jésus nous commande à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés, mais il nous dit aussi que par cela le monde saura, le monde verra que vous êtes mes disciples. L'amour a un sens puissant, parce qu'il fait réaliser l'amour de Dieu au monde. Et si nous aimons selon le cœur de Christ, alors le monde verra. Le monde verra et le monde saura qui est Christ. Je crois qu'ici, nous sommes appelés à transpirer l'amour de Christ, à le témoigner, à en faire vie. L'amour est en ce sens le lien suprême, le lien de la perfection, celui qui mène à Christ. Alors la troisième chose que je demande à Dieu ce matin, c'est qu'il nous fasse toujours plus abonder dans son amour, afin d'aimer Christ, afin d'aimer les frères, pardon, comme Christ nous a aimés. La dernière chose que je voudrais dire pour conclure, je vais essayer d'aller plus vite, c'est que Paul attire notre attention sur un dernier point qui me semble important, la paix. Il dit au verset 15 que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Vous savez, l'unité est extrêmement importante dans la parole de Dieu pour l'Église, l'unité du corps de Christ. Sans amour, il n'y a pas d'unité, sans unité, il n'y a pas d'Église. Et je crois qu'il est extrêmement important de considérer la paix qui nous lie les uns les autres. Paul dira en Éphésiens 4 au verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et je crois que nous devons nous efforcer, efforcez-vous, c'est votre part, à conserver l'unité que donne l'esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Cette paix du Christ est cette paix qui nous lie les uns les autres. Et si vous regardez les paroles de Paul, il nous dit « la paix que Christ est venu instaurer ». Christ est venu instaurer cette paix dans nos vies. Il est venu l'instaurer. À la place de la division qu'a produit le péché, ce péché qui faisait renier la division, le conflit et donc la séparation d'avec Dieu, Jésus-Christ, lui, nous a réconciliés avec le Père. Et donc il est venu instaurer sa paix dans nos vies. Une paix profonde, une paix véritable. Et cette paix, il veut que nous la vivions les uns et les autres. En nous remplissant de sa paix, Jésus est venu enlever ce qui nous divisait. La paix que Christ est venu apporter au monde est une paix qui nous touche tous personnellement. Et elle nous apporte la certitude, en tant que frères et sœurs, que nous sommes unis au Christ. Et cette paix vient faire le lien les uns les autres. Et donc, si vous considérez cela, il est important que nous soyons en paix les uns avec les autres, que nous tenions à cette paix afin que le témoignage de notre amour soit véritable. Cette même paix doit être aussi entre les frères. Elle est ce qui nous unit. Alors ce matin, vous voyez, j'ai essayé par ce passage, par ces paroles de Paul, de vous faire considérer que l'amour fraternel, c'est un champ qui est devant nous. Et il s'exerce dans l'Église et en dehors de l'Église de bien des manières. Et on pourra l'aborder une prochaine fois. Mais nous avons besoin, pour que cet amour fraternel grandisse, qu'il puisse croître, nous avons besoin de revêtir des sentiments que Dieu nous appelle à revêtir. En d'autres termes, Paul nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je vais terminer par la prière, si vous voulez. Je vais terminer par la prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, Père, tu nous montres dans ta parole toute l'importance de l'amour fraternel. Cet amour, c'est une mission pour l'Église. C'est une mission de l'Église. C'est donc notre mission à chacun. Elle est à vivre pour nous, chacun individuellement, et elle est à vivre pour l'Église, en vue de l'unité de la foi. Au regard de ta parole, Seigneur, ce matin, je dois te demander pardon, Seigneur. Et je crois que nous devons te demander pardon. Parce que nous devons reconnaître que nous ne vivons pas toujours dans cet amour. Et nous ne témoignons pas toujours de cet amour comme tu veux que nous le témoignions. Nous devons reconnaître, Seigneur Jésus-Christ, que nous avons besoin de toi. Et je te demande pour moi-même, pour mes frères et sœurs, que tu nous fasses toujours abonder plus dans cet amour. Donne à chacun de revêtir tous ces sentiments que Paul nous invite à revêtir. La bonté, la miséricorde, la patience, l'humilité, la bienveillance. Que nous puissions toujours abonder en amour. Et Seigneur Jésus-Christ, je te demande ce matin aussi que tu nous rendes capables, que tu nous rendes capables de nous supporter les uns les autres et de nous pardonner, afin que nous puissions exprimer un amour concret, sincère, véritable, sans barrière, sans lien, sans retenue. Je te prie encore, mon Dieu, que tu nous unisses par les liens de la paix et que nous sachions combattre dans nos vies tout ce qui nous empêche de maintenir ces liens de paix. Oui, mon Dieu, ce matin, je te demande aussi que cet amour véritable soit visible dans nos vies, soit visible dans l'Église et soit un témoignage pour le monde. Que cet amour fraternel ressort, transpire de nous, Seigneur, afin qu'il soit un témoignage de ton amour pour nous et que le monde te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Aide-nous, mon Dieu, à remplir cette mission qui est un pilier de l'Église, chacun pour sa part. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui est capable de réaliser cela dans nos vies, par son Esprit Saint. Amen.